Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 30 mai 2020. Il a fait chaud cette semaine, Germain.
Oui, on le voit pas à la radio, mais je suis en Bermuda.
Ah, puis moi, comme je suis ton aîné, je vais dire que je suis en culotte courte.
Voilà.
Hein, c'est pas pire, ça. Écoute, on commence tout de suite avec Nissan, qui a fait l'actualité cette semaine pour plusieurs raisons. Oui. Et la première, c'est pas une nouvelle très, très encourageante, parce qu'on est allé, on a passé le couperet, mais solidement à travers l'entreprise. Là.
Oui, et particulièrement à Barcelone, où on a décidé de carrément fermer l'usine qui elle, employait 3000 personnes. Donc, c'est difficile d'avoir plus drastique comme mesure, finalement.
Ouais.
Donc, ça se passe très mal à l'échelle mondiale pour Nissan. Ça se passait mal avant la pandémie, mais là, on dirait que les constructeurs qui avaient les reins moins solides ben, ont un petit peu plus de misère à passer à travers cette crise-là. Donc, le plan stratégique, c'est de réduire environ 20 % de sa capacité mondiale. Donc, on va gérer une décroissance, finalement.
Il faut dire que Nissan était devenu maître dans l'art de fournir des véhicules au parc de location, aux entreprises comme ça.
Et tu te nuis à toi-même. Là, on en avait parlé avec le président de Nissan Canada, ici même. Tu nuis à la valeur de revente de tes véhicules et tu fais pas tant d'argent en vendant ces véhicules-là au parc de location.
Non, c'est ça. Tu gardes tes employés à flot, ça, c'est correct, mais en même temps, est-ce que c'est réellement payant? C'est une autre histoire. Puis, c'est surtout que si tu en fais trop, ça affecte la perception que les gens vont avoir du produit comme tel. Alors, on a coupé, évidemment, bon, tu le disais, l'usine est fermée. À l'échelle nord-américaine, par contre, il n'y a aucune usine qui est fermée, mais on va réduire le nombre de véhicules qu'on va fabriquer selon l'usine entre 20 et 25 % d'un endroit à l'autre. C'est quand même pas rien. Alors, des usines comme on a à Smyrna, au Tennessee, du côté des États-Unis, ben vont elles aussi subir des coupures sans toutefois que ce soit aussi drastique que du côté de Barcelone. Puis il faut savoir que Nissan aussi retarde l'arrivée de certains de ses produits. Oui. On attendait d'ici quelques semaines à peine, c'est tout dire, l'arrivée du nouveau Rogue qui va être retardée un petit peu. La Versa berline, on s'attendait à ce qu'elle arrive en juin, ça ne sera pas le cas.
Même la Sentra, là, c'est
mais là, la Sentra vient d'arriver.
Oui, mais c'était retardé, ça aussi. Et avant d'en vendre, ça va prendre un moment aussi, là.
Mais c'est une voiture qui vaut la peine d'être considérée, honnêtement.
Et encore plus considérant le contexte économique, là, ouais. T'sais, peut-être que d'aller chercher une voiture, t'sais, entre guillemets, le beau bon pas cher, ça va peut-être convenir à plus de gens qu'il y a un an, finalement.
Voilà. Bon, Nissan a aussi fait l'actualité cette semaine parce qu'on a, sans dévoiler officiellement la voiture, on a laissé entrevoir le futur de la marque à travers des sketchs automobiles filmés, que ce soit filmé de façon réelle ou de façon simulée. Bref, on était capable d'apercevoir les prochaines générations d'une gamme complète de véhicules que moi, j'ai pu voir du côté du Japon.
Et si vous regardez la vidéo, là, je vous le dis tout de suite, c'est assez sombre. Là.
C'est très sombre. Vous ne serez pas capable de distinguer. Là.
Ouais, on voit la silhouette grossièrement. On voit les phares qui sont à peu près tous repris sur les mêmes sur les véhicules. Mais sinon, faut s'imaginer le reste.
Mais pensez à une prochaine génération de Pathfinder qui va être un véhicule avec un look un peu plus costaud.
Ouais.
Un nouveau Murano qui va avoir une sacrée belle gueule. Nouvelle camionnette Frontier qui devrait arriver probablement l'année prochaine. Et ça, c'est un camion développé pour le marché nord-américain. Il n'est plus question d'utiliser une camionnette qu'on utilise à l'échelle mondiale, donc de se baser sur le Navara qui existe ailleurs pour vendre ça ici. Ça ne sera pas le cas. C'est un camion qui va être bâti pour le marché nord-américain avec un look très américain, merci.
Parce que toi, tu l'as vu.
Moi, j'ai pu le voir. Donc, nouveau Titan, nouveau Armada. Il y a beaucoup de produits. Évidemment, celle qui a fait le plus jaser, c'est la nouvelle Z.
Oui, et on met l'emphase sur elle dans cette vidéo-là.
Ouais.
Et on fait un petit zoom-in sur le Z, finalement.
Est-ce qu'on aperçoit vraiment, lorsqu'on regarde ces images-là passer rapidement, des images qui, en passant, vous pouvez les voir sur le site site guideautoweb.com parce que notre collègue Guillaume Rivard a publié un article à cet effet-là cette semaine. Ce sont essentiellement les... C'est la voiture que j'ai pu apercevoir, moi, du côté du Japon. Donc, des lignes très épurées, une partie arrière qui est encore plus élancée. Et ce qu'on m'a mentionné du côté du Japon, c'est qu'on conserverait la plateforme de la voiture actuelle parce qu'il n'est pas question qu'on développe une nouvelle plateforme pour
c'est
très cher à développer, mais qu'on ferait appel, même si on ne l'a pas dit de façon officielle, au moteur de la Q50 ou Q60 Redline, qui est un V6 biturbo de 400 chevaux.
Oui, donc c'est correct.
Ça devrait être relativement agréable comme machine. On n'a pas mentionné s'il y aurait de boîte manuelle, automatique.
On n'est pas rendu là,
il n'y a pas de détails. Mais on sait qu'il y a une prochaine génération de Z qui s'en vient. Par contre, on n'a rien confirmé pour la GTR.
Ben, c'est ce que j'allais dire, parce que dans cette vidéo-là, il n'y a rien qui laisse imaginer... Dans le lot de voitures qu'on voit, il y en a une qui pourrait être la GTR de nouvelle génération.
Non, effectivement.
Alors, est-ce que on va le...
Si vous la regardez comme il faut, cette vidéo-là, vous allez aussi apercevoir un 4x4 qui a un look assez off-roader, merci. Ça laisserait peut-être présager le retour d'un Xterra ou de quelque chose du genre qui viendrait rivaliser avec un Wrangler ou avec le prochain Bronco.
Ouais.
Là, c'est de la pure spéculation.
Allez pas dans un concessionnaire Nissan lundi matin.
Mais en même temps, ça serait logique. Et si on est outillé chez Nissan pour pouvoir offrir un produit comme ça parce qu'on ramène aussi une camionnette Frontier, donc en utilisant le même châssis, les mêmes mécaniques, ça pourrait être logique de le faire, je pense qu'on pourrait avoir des belles surprises chez Nissan dans les prochaines années. Il y a aussi le Qashqai qui va se renouveler prochainement.
Ouais.
Mais remarquez que ce que vous voyez dans cette vidéo-là, il n'y a pas de voiture, là.
Non.
C'est des camions.
Voilà. Et dernier mot peut-être sur la Z. J'ai remarqué que son capot était pas mal plus long, ou du moins paraissait plus long que celui de la 370Z actuelle. Est-ce qu'on veut ressembler aux anciennes 240, 280 et compagnie? Peut-être. J'y vois même un petit look de F-Type, là, par exemple, avec un long museau.
Oui, absolument.
Donc, c'est intéressant.
Puis on remarque que les ailes avant sont très plates, ne sont pas bombées comme c'est le cas actuellement. Le capot est très plat, très large. La voiture donne l'impression d'être encore plus basse avec des voies plus larges. Ça va donner une machine qui va être intéressante, mais qui est quand même évolutive par rapport à ce qu'on connaît en ce moment, en espérant que la finition soit un petit peu mieux.
Ça peut pas être pire.
Ça serait bien. Bon, on va parler du GMC Hummer électrique qui n'est pas prêt d'arriver, mais on a quand même dévoilé un petit truc cette semaine à son effet.
Oui, parce que, lui aussi, hein, sa présentation, son dévoilement a été repoussé, mais on a...
Et pour votre gouverne... on ramène le nom Hummer à travers la filiale GMC.
Voilà.
Et ça sera un utilitaire pleine grandeur, 100% électrique.
Oui, donc on nous l'a pas dit aussi correct que ça, mais ça va être un comparable au Cybertruck de Tesla, par exemple.
Voilà.
Donc, étant donné qu'il va être 100% électrique. Mais ce qu'on nous a dit, c'est qu'il allait avoir un toit amovible, translucide, donc en verre. Un T-top, là. Tu sais, si vous êtes fan de Burt Reynolds, là, il va avoir un T-top à l'avant, T-top à l'arrière. Donc, ça va être particulier.
Fait que si t'es un fan de Burt Reynolds et de Schwarzenegger, c'est le véhicule parfait.
Voilà. Hein? C'est l'aboutissement.
Genesis qui continue de faire jaser avec un nouveau véhicule, mais qui n'est pas arrivé sur le marché et surtout où on va l'acheter. Ça non plus, c'est pas clair. Mais bref, on a dévoilé...
Parce que le Carrefour Laval, lui, est toujours pas ouvert.
Ça sera pas là.
Non, exactement. Bon. Donc, le GV80, qui est le premier VUS finalement chez Genesis, que tu as eu la chance de voir, pas de conduire, je pense, mais de voir en tout cas.
Ouais.
Et là, on nous a dévoilé l'échelle de prix. Il n'est pas donné. Hein? Ça, il n'y a pas de doute. La version de base, là, donc le GV80 version Select, c'est 64 500 $ et c'est un 4 cylindres turbo, hein, c'est la mode, de 300 chevaux. Et après ça, on a une version milieu de gamme à 70 000 $ et au sommet, on a une version 3.5 T Advanced qui, elle, est à 80 000 $
On a l'intention de vendre ça aux États-Unis, bref.
Oui, voilà.
C'est ce que ça veut dire. Parce voilà. que, autrement dit, je veux dire, je pense qu'on...
Moi, j'en ai vu un sur une...
Parce que cette échelle de prix-là
ouais.
ne cadre pas assez bien avec ce qu'on propose chez la compétition.
Ben non.
Le GV80 veut se situer, disons, en comparaison avec un Mercedes GLE, avec un BMW X5, mais personne n'offre de 4 cylindres dans ces segments-là. Et pour arriver à un V6, ben là, on est à 80 000 $
ouais.
Mais qui va débourser 80 000 $ pour un produit comme ça, quand pour moins cher, tu vas aller chercher un Acura MDX, quand tu vas aller chercher ouais. Un Lexus...
Ben, c'est, bon, ouais, ou même les Américains. Là,
ben, les Américains, absolument. Là. Donc, c'est très audacieux comme échelle de prix.
Je m'attendais à ce que... Oui, c'est audacieux, mais je m'attendais à ce qu'on soit agressif.
Et c'est pas le cas.
Et c'est pas le cas.
C'est pas le cas, mais moi, j'ai vraiment l'impression... Que,
on vise les Américains.
Ouais. On va cibler les Américains parce qu'évidemment, avec le taux de change, c'est défavorable. Et bon, ceux qui veulent vraiment l'acheter le feront. Mais j'ai l'impression que la grosse majorité va se retrouver aux États-Unis. Ça, c'est d'une évidence. Un mot sur la Civic Type R. Écoute.
Oui, on a présenté il y a quelques semaines une version édition limitée.
Une version jaune.
Une version jaune avec des roues différentes puis qui est allégée. En gros, là, c'est ça, c'est caractéristiques. On a fait le tour assez vite. On en allouait 100 pour le Canada et ben, plus tôt cette semaine, on a ouvert le carnet de commandes sur le site de Honda Canada. Puis en 4 minutes, tout était réglé. Comme quoi, la pandémie fait mal plus à certains qu'à d'autres, visiblement.
Permets-moi de te dire que...
Tout ça sans savoir le prix.
Oui, mais permets-moi de te dire que parmi ce carnet de commandes-là, il y a une majorité qui sont des concessions, qui ont commandé dans le but d'avoir cette voiture-là
voilà,
à
parce
mettre
que ça va
en
être,
vitrine.
Ça va attirer l'œil, tu l'as dit, ben elle est jaune, mais...
Et ça demeure une sacrée machine de performance.
Ah, mon Dieu, oui.
Bon,
oui,
ça accroche l'œil, là, ça c'est clair, mais ça demeure une voiture sport compacte extrêmement compétente. Puis ceux
à
qui
roue
ont
motrice avant.
Oui, et pas d'effet de coupe.
Voilà.
Moi, c'est la chose qui m'impressionne le plus sur cette voiture-là.
Parce que les concurrentes sont quatre roues motrices. Là.
Plus de 300 chevaux sur les roues avant et pas d'effet de coupe, c'est quand même quelque chose. On parlait de suppression de postes tantôt du côté de chez Nissan. C'est aussi le cas chez McLaren.
Oui, exactement. Donc, 1200 emplois qui ont été supprimés. Donc, on pourra imaginer que quand on est dans des manufacturiers de véhicules exotiques et on s'adresse à un public très, très, très niché, ben qu'il y a une pandémie mondiale, ça affecte ou pas du tout. Ben oui, là, ça les affecte, il n'y a aucun doute. Et ben McLaren était impliqué aussi en Formule 1. Et ben, je sais pas si vous avez écouté un Grand Prix cette année, mais c'est pas des Grands Prix de l'année 2020. Hein?
Non.
Fait que, donc, c'est un petit peu plus compliqué, mais il n'y a pas de doute que si l'économie venait à reprendre comme elle était, ben les gens vont recommander des McLaren, peu importe le prix qu'elles seront. Mais pour le moment, il y a toujours 1200 employés qui, eux, ont perdu leur emploi.
Ça n'a pas empêché notre ami Luc Poirier, qui était assis ici il y a quelques mois, de se procurer cette semaine ou la semaine passée une Senna.
Une Senna, hein? Voilà. Donc
rien de trop beau. Une voiture quand même...
Je pense qu'ils vont passer un bel été.
Oui, je pense que c'est assez exceptionnel comme machine. Je vous parle brièvement du véhicule que j'ai conduit cette semaine. Véhicule pour lequel j'avais pas vraiment d'attente, mais qui en même temps représentait pour moi une curiosité parce qu'il vient directement rivaliser avec le Tesla Model X, mais dans une formule, bon, disons-le, plus élégante avec un niveau de finition nettement supérieur, pour un prix qui est moindre. Mais pour une autonomie et des performances qui sont moindres aussi, je parle évidemment du Audi e-tron. Et là, non, on ne s'étale pas sur le nom. On a assez entendu parler. Ce véhicule-là m'a toujours plu depuis son arrivée pour son look, pour sa présentation, son format. L'habitacle, c'est exceptionnel, le niveau de finition là-dedans. Je vous dirais que celui que j'ai conduit m'a laissé sur mon appétit parce que c'était blanc, intérieur noir, ça n'avait rien de très particulier au niveau du look. Parce qu'on croise de temps en temps des modèles bleus à
croix, voilà,
c'est la couleur de lancement.
On les voit de loin, là.
Et ça en jette quand même. Mais honnêtement, c'est un produit qui m'a déçu parce que, d'abord, le poids de ça est ridiculement élevé. On parle de 2000...
Et tu le sens tant que ça?
Ah, Seigneur, t'as l'impression de conduire un ancre à bateau. C'est 2500 kilos, ce véhicule-là. Là, okay. C'est, on parle du poids, d'un poids plus élevé qu'un Chevrolet Suburban. Okay?
Dans un format qui est beaucoup plus
dans
petit.
Dans un format là. Intermédiaire. Là. Pour ouais. vous donner une idée, là, on parle du format entre un Ford Edge et un Ford Explorer. Ouais. Dans ces coins-là. Véhicule qui est un 5 passagers, évidemment. Sacré belle gueule, mais très, très, très lourd. Et ce que ça a comme impact, c'est que ça a consommé à peu près 28-29 kWh au niveau de la consommation d'énergie pour une autonomie annoncée à 329 km. Moi, dans les conditions auxquelles j'étais, j'ai eu un maximum d'autonomie affiché à 288 lorsque j'étais en okay. pleine charge. Il fait beau, c'est rendu l'été, il n'y a plus de raison d'être pénalisé.
Non.
Donc, ce n'est pas l'autonomie d'un Model X, c'est certain. Et en plus, j'ai trouvé que, hormis le fait qu'on est installé à bord d'un carrosse royal, au niveau de la présentation, au niveau de comment c'est organisé à l'intérieur, j'ai été déçu par la conduite. Et ça, c'est rare chez Audi.
Oui,
d'habitude, on a une direction qui est précise, on a un véhicule qui est inspirant côté comportement. Là, le poids vient handicaper le plaisir de conduire.
Parce que c'est un véhicule qu'on a développé à la va-vite ou...
Non, mais vraiment, je veux dire, on a voulu développer un véhicule électrique. On est arrivé avec une formule qui est réussie, mais t'as pas l'impression d'avoir l'ADN d'un Audi quand tu conduis ça.
Okay.
J'ai conduit un Q3 il y a quelques semaines. Oui, c'est plus petit. Oui, c'est un véhicule à essence, mais... La précision de la direction, le plaisir de prendre un virage avec un Q3, puis c'est pas une voiture sport, un Q3, là. On ne retrouve pas ça dans un e-tron. Parce que le véhicule est très lourd, parce qu'il est gigantesquement chaussé, parce que la direction, il y a une espèce de flou à ce niveau-là. Et la puissance du moteur électrique, évidemment, il y a différents modes de conduite, là, mais même en mettant ça en mode performance, c'est pas particulièrement rapide. On est loin des performances d'un Model X. Alors, est-ce que je choisirais ça avant un Model X? Probablement parce que je ne paierais jamais 200 000 pour un Model X qui offre le niveau de performance qu'il va offrir. Puis parce que je le trouve plus beau, parce que la finition est meilleure.
Et mais... qui achète ça, un e-tron? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait un Q5? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait un Q7 qui veut faire un saut vers l'électrique?
Il faut quand même considérer que c'est une marche qui est quand même assez haute. Parce qu'on parle d'un véhicule qui part à juste en bas de 100 000 $ Et là, on ajoute des options. C'est quand même un véhicule coûteux et pas besoin de te dire que c'est pas éligible au crédit gouvernemental.
Non, rendu à
ces prix-là, il n'y en a pas de...
Tu t'arranges avec tes troubles.
Est-ce que tu l'achètes pour faire un geste environnemental? Peut-être. Est-ce que tu l'achètes parce que tu vas avoir un véhicule électrique, parce que tu veux goûter à ça? OK. Mais la facture est quand même considérable. Et moi, je t'avoue que je prends beaucoup plus de plaisir à conduire un Q7 qu'à conduire ce véhicule-là. Je parle vraiment au niveau comportement routier.
Ouais.
Puis même au niveau puissance, tu sais, Audi, on a des transmissions qui sont efficaces. On a des moteurs qui sont à la fine pointe. Le moteur 3 litres qu'on utilise chez Audi, je l'adore. Évidemment, ça ne consomme pas d'essence.
Ben non,
voilà l'avantage, là, tu me diras.
C'en est un,
puis c'est un véhicule vert et c'est pas un véhicule, lorsque tu le regardes, qui a l'air d'une navette spatiale.
Voilà.
Ça a quand même une belle gueule. Tu ne peux pas nécessairement deviner que c'est un véhicule électrique. Et pour ça, je l'apprécie beaucoup.
Comme la e-Golf dans la même famille.
Ouais.
Là.
Donc, et qui viendra rivaliser avec ça, bien évidemment, c'est ce qui va arriver prochainement du côté de chez Mercedes. L'utilitaire électrique Mercedes est retardé. J'étais allé voir ce véhicule-là, moi, du côté de l'Europe. Là, le nom m'échappe, mais j'étais allé voir ce véhicule-là du côté de l'Europe il y a un peu plus d'un an. Et là, on a retardé l'arrivée de ce modèle-là. Chez BMW, il n'y a pas de concurrent direct qui arrive là parce que, oui, on a un X5 enfichable hybride, mais on n'a rien de 100% électrique pour l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme concurrence directe? Ça sera évidemment le Model X et le Mercedes-Benz qui va arriver probablement d'ici un an. Mais pour l'instant, Audi réussit quand même à vendre quelques unités de ce modèle-là. Chaque véhicule qui rentre sort immédiatement.
Oui, j'allais dire, les concessionnaires ne doivent pas avoir une allocation énorme.
Il
n'y
a pas d'inventaire. On en voit sur la route. Donc, c'est quand même signe d'un succès.
Si on va se promener à Ville-Mont-Royal, on en voit.
Puis je te dirais aussi que par rapport à Tesla, ben, on a l'avantage d'avoir un réseau de concessionnaires sérieux, d'avoir un service après-vente, d'avoir une garantie qui est sérieuse. Ça, c'est quand même un point qu'il faut considérer. Et je veux dire, autant les voitures Tesla sont, à mon avis, très jolies, incluant le nouveau modèle, bon, j'ai un blanc, le petit utilitaire. Là.
Le Y.
Le Y. Alors, autant le modèle Y est réussi sur le plan esthétique, le modèle X, j'ai toujours trouvé qu'on l'avait échappé côté look. Et Audi, ben a cet avantage-là. Mais je peux pas dire que j'ai été impressionné par le comportement, par l'autonomie et par la consommation de ce véhicule-là. Parce qu'il faut quand même parler de consommation d'énergie avec un véhicule électrique. Et à presque 30 kWh, c'est pas mal d'énergie pour un véhicule comme celui-là. Ça consomme un peu plus qu'un Jaguar I-Pace, pour vous donner un exemple.
Ouais.
I-Pace qui pourrait être considéré comme un rival, mais qui a un comportement diablement plus intéressant.
Okay.
Le I-Pace est vraiment une machine agréable à conduire, plus rapide, plus performante. On a plus de plaisir au volant, mais c'est moins pratique. C'est peut-être... C'est plus excentrique comme design aussi.
Oui, alors, pas mal.
Quelqu'un qui veut quelque chose de plus classique, le e-tron est là.
Quand l'e-tron est arrivé au Canada, le premier propriétaire à en prendre possession, c'est un type RV Soitcher qui vit en Colombie-Britannique.
Okay.
Et lui, il avait comme projet de parcourir le Canada d'ouest en est avec son épouse qui était qui est morte trop jeune. Et en son honneur, il a décidé avec son e-tron de partir à l'aventure au Canada. Et il avait convaincu Audi de recevoir finalement le premier e-tron à arriver. Et c'est ça.
Et il est à la veille d'arriver à Montréal?
Non, ça fait plusieurs mois même de ça. Et il était effectivement là, bleu toile de piscine. Voilà.
Pas évident de se recharger à Calgary, par exemple. Les bornes de recharge sont un peu plus rares de ce côté-là.